Histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin, Livre 2, France, temps favorable, Chapitre 20e, Calvin, son éloignement de la hiérarchie, son premier ouvrage, Ses amis. Le coq avait été pris dans les filets du monde. Caturs avait péri dans les flammes du bûcher. Quelques âmes d'élite semblaient tomber dans un troisième piège, un certain christianisme un peu mystique, un peu mondain, un peu catholique. Mais il y avait parmi les évangéliques un jeune homme qui commençait à donner quelques inquiétudes aux tièdes. Calvin, c'est de lui que nous parlons, se vit attaqué successivement de ses trois côtés et il tint ferme. Il faisait plus. Il augmentait de jour en jour le cercle de son activité chrétienne. Un avocat, un jeune frondeur, un pieux marchand, un étudiant catholique, un professeur de l'université et la reine de Navarre recevaient alors de lui des impulsions qui les faisaient avancer dans le sens de la vérité. L'avocat Daniel l'aimait cordialement et désirait le retenir dans la communion romaine. Sa grande intelligence, son caractère énergique, son infatigable activité semblaient promettre à l'Église un saint Augustin ou un saint Bernard. Il fallait l'élever à quelque poste important où il aurait la perspective de se rendre utile. L'avocat, qui croyait Calvin bien moins avancé dans les voies de la liberté qu'il l'était réellement, eut alors la pensée d'obtenir pour lui une charge ecclésiastique qui, pensait-il, conviendrait parfaitement à son jeune ami. C'était celle d'official ou de vicaire général, chargé d'exercer la juridiction épiscopale. Daniel réussira-t-il? Enlèvera-t-il à la Réformation ce jeune et beau génie? Des hommes puissants étaient tout prêts à lui prêter main forte pour fixer Calvin dans les rangs de la hiérarchie romaine. Ainsi, la première tentation qui s'offrit à lui vint de l'ambition cléricale. Un ecclésiastique de grande naissance, Jean, comte de Longueville, archevêque de Toulouse, avait été nommé évêque d'Orléans en 1521 avec permission de garder son archevêché. On attendait alors, en 1532, à Orléans, un nouvel évêque, soit que Longueville fût déjà mort, ou, qu'étant malade, un coadjuteur lui fût nécessaire. Le prélat attendu était compatriote de Calvin. Daniel crut qu'il fallait se hâter de saisir l'occasion pour procurer au jeune savant les fonctions d'official. L'avocat fit à Calvin ses premières ouvertures le 6 janvier 1532. « Jamais, lui dit-il, je n'abandonnerai l'ancienne et mutuelle amitié qui nous unit. » Puis, ayant ainsi cherché à se concilier l'attention favorable du jeune lettré, il lui insinua habilement son désir. Nous attendons chaque jour l'arrivée de l'évêque. Je voudrais que, par les soins de vos amis, vous lui fussiez tellement recommandé qu'il vous revêtît de la dignité d'official ou de quelque autre. Il y avait là de quoi flatter l'amour-propre d'un jeune homme de 23 ans. Calvin, devenu si jeune vicaire général, n'en fut pas resté là. Ce poste menait aux plus hautes dignités, et son beau génie, son grand et fort caractère, l'eussent fait devenir évêque, cardinal, qui sait, pape peut-être. Au lieu de délivrer l'Église, il l'eût enchaîné, et loin d'être le Jean Calvin, il eût été peut-être l'Hildebrand de son siècle. Que fera Calvin? Décidé quant à la doctrine, il ne l'était pas encore quant à l'Église. Il se trouvait au moment de la transition. D'une part, disait-il, je sens la vocation de Dieu qui me tient lié à l'Église, et de l'autre, je crains de me charger d'un fardeau qui m'est insupportable. Quelle perplexité! Bientôt la tentation le surprenait. Vois, une vie aisée, studieuse, honorée, utile, lui soufflait une voix invisible et perfide. Ah, disait-il, aussitôt que quelque chose se présente qui nous plaît, les désirs de notre chair courent incontinent après, d'une grande impétuosité, comme des bêtes sauvages. Nous ne savons si ces bêtes sauvages se levèrent alors dans cette âme ardente, mais en tout cas, s'il y eut quelque cupidité au-dedans qui chatouilla le cœur, il lui imposa silence. Une grande décision distingue le caractère chrétien de Calvin. Le nouvel homme en lui repoussait avec horreur tout ce que le vieil homme avait aimé. Loin de s'engager dans de nouveaux liens, il pensait à rompre ceux qui l'attachaient encore à la hiérarchie romaine. Il n'entra donc point dans la proposition de Daniel. Des deux chemins qui s'ouvraient devant lui, il choisit le plus rude et se donna à Dieu seul. En se détournant des évêques et des cardinaux, Calvin se tournait avec amour vers les martyrs et les bûchers. La mort du pieux Berquin et d'autres confesseurs l'avait ému et il craignait de voir d'autres fidèles frappés des mêmes coups. Il eût voulu parler pour les innocents, pour les muets, pour les victimes. Mais hélas, disait-il, comment moi, homme chétif, sorti du peuple et qui n'ai que peu de science, pourrais-je être écouté? Il avait achevé son commentaire sur le traité de la clémence par Sénèque. Grand admirateur de ce philosophe, il s'indignait de ce qu'on ne lui accordait pas la place qu'il avait méritée. Il en parlait à tous ses amis. Quand l'un d'eux arrivait dans sa petite chambre et s'étonnait de lui voir prendre tant de peine pour faire connaître l'écrit d'un philosophe païen, Calvin, qui avait cru découvrir dans la mine de fer de Sénèque un filet d'or de l'Évangile, répondait « N'a-t-il pas écrit contre les superstitions? N'a-t-il pas dit des Juifs que ce sont les vaincus qui donnent la loi aux vainqueurs? Quand il s'écrit « Nous avons tous péché, nous pécherons tous jusqu'à la fin », ne croit-on pas entendre saint Paul ?» Toutefois, un autre motif décida Calvin, selon quelques-uns, à choisir dans les écrits de Sénèque le traité sur la clémence. Il y avait une ressemblance, et Calvin l'avait reconnu, entre l'époque de l'auteur et celle du commentateur. Sénèque, vivant lors des persécutions contre les premiers chrétiens, avait adressé aux persécuteurs un écrit sur la clémence. Calvin se décida à le publier avec un commentaire, dans l'espoir, a-t-on dit, que le roi, amateur de lettres, lirait cette œuvre de l'Antiquité. Sans rejeter cette hypothèse de manière absolue, l'essentiel pour lui, disons-le, était de composer une œuvre littéraire. Et il y mit une science pleine de solidité et un style plein de charme et d'élégance. Quoi qu'il en soit, voici les paroles de Sénèque qui, grâce à Calvin, retentirent alors dans la ville des rois de France. « La clémence ne convient à personne autant qu'à un roi. C'est toi-même que tu épargnes quand tu sembles en épargner un autre. Il ne faut faire de mal à personne, pas même aux hommes méchants. Fait-on du mal à des membres malades ? C'est le propre des bêtes féroces les plus lâches de mordre ceux qui sont couchés par terre. Mais les éléphants et les lions passent à côté de celui qu'ils ont renversé. Prendre plaisir au bruit des chaînes, faire tomber la tête des citoyens, répandre beaucoup de sang et porter la terreur partout où l'on se montre, est-ce là l'œuvre d'un roi? S'il en devait être ainsi, oh qu'il vaudrait mieux que ce fussent les lions, les ours ou même les serpents qui régnassent sur nous. » L'ouvrage fini, Calvin pensa à l'éditer. Mais on lui tourna le dos. Le premier travail d'un écrivain ne tente pas les libraires. Le jeune commentateur n'était pas riche. Il prit pourtant une grande résolution. Il sentait, à ce qu'il semble, qu'écrire serait sa vocation, que Dieu même l'y appelait. Et il était décidé à faire le premier pas, malgré les obstacles. « Je publierai, dit-il, le livre sur la clémence à mes frais. » Mais quand l'ouvrage fut terminé, l'inquiétude le prit. Vraiment, cela m'a coûté plus d'argent qu'on ne l'imagine. Ce fut en latin que le jeune auteur écrivit son nom sur le titre du premier livre qu'il ait publié. Calvinus, d'où est venu, on le sait, le nom de Calvin, remplaçant celui de Covin qu'avait porté son père. Il dédia son ouvrage à l'abbé de Saint-Éloi, 4 avril 1532, puis il le lança dans le public. C'était pour lui une grande affaire. Il y voyait des chances, des périls, il en était tout ému. Enfin, écrivit-il le 23 mai à Daniel, le sort en est jeté. Mon commentaire sur les livres de la clémence a paru. Deux pensées surtout le préoccupaient. La première, c'était le bien que son livre produirait. Écrivez-moi le plus tôt possible, dit-il à son ami, si c'est avec faveur ou avec froideur que mon livre est reçu. J'espère qu'il contribuera au bien public. Mais il était aussi dans une grande anxiété sur la vente. Il n'avait plus d'argent. « Je suis épuisé, disait-il. Il faut que je m'ingénie pour rassembler de tous côtés l'argent que j'ai dépensé. Calvin déploya une grande activité dans la publication de son premier ouvrage. On peut déjà reconnaître en lui le capitaine qui fait son plan de bataille. Il va voir plusieurs professeurs de la capitale et les engage à faire usage de son livre dans leur lecture publique. Il en envoie 5 exemplaires à Bourges à 5 de ses amis. Il demande que Suquet fasse un cours sur cette publication. Il adresse à Landrin la même demande pour l'université d'Orléans. Il ne perdait pas une occasion de recommander son ouvrage. Daniel lui avait demandé des Bibles. Le refus de Calvin d'entrer dans les charges de l'Église n'avait sans doute pas étonné l'avocat, et même cet homme pieux désirait répandre le livre qui inspirait tant de renoncement et de courage à son jeune ami. Mais la commission n'était pas facile. On avait alors la Bible de Lefebvre, imprimée en français à Anvers en 1530, et la Bible latine de Robert Étienne, qui parut à Paris en 1532. Cette dernière était si avidement achetée que les docteurs de la Sorbonne voulurent en arrêter la vente. Ce fut peut-être alors que Calvin chercha à se la procurer. Il dut aller de boutique en boutique. Les libraires le regardaient d'un œil défiant et lui disaient qu'il n'avait pas ce livre. Calvin recommençait sa course dans le quartier latin. Enfin, il trouva ce qu'il cherchait chez un libraire plus indépendant que les autres de la Sorbonne et de ses arrêtés. « Je me suis acquitté de votre commission touchant la Bible, écrit-il à Daniel, et cela m'a coûté plus de peine que d'argent. » Calvin profita de l'occasion pour demander à son ami de donner un cours sur la clémence. « Si vous vous y décidez, écrit-il, je vous enverrai 100 exemplaires. » Ces exemplaires devaient sans doute être vendus aux auditeurs de Daniel. Telle était, lors de son début, l'anxiété du grand écrivain du XVIe siècle. Le premier écrit de Calvin, il vaut la peine de le remarquer, fut sur la clémence. Le roi lut-il ce traité? Je l'ignore. En tout cas, Calvin ne fut guère plus heureux auprès de François Ier que Sénèque auprès de Néron. Un autre plaidoyer d'une autre nature l'occupa bientôt. Calvin avait horreur du mensonge. La calomnie l'indignait, soit qu'elle éclatât par des accusations grossières, soit qu'elle se manifestât par certaines louanges équivoques. Parmi ses amis d'université se trouvait un jeune homme qu'il appelait son excellent frère, mais dont le nom ne nous a pas été conservé. Tous ses condisciples l'aimaient, tous ses professeurs l'estimaient, mais on le trouvait parfois un peu rude. Cet étudiant inconnu, ayant cru de toute son âme la bonne nouvelle de l'Évangile, sentait le besoin d'en parler de l'abondance de son cœur, et l'obligation où il était de voiler ses convictions le révoltait. Il y avait en lui bien des restes du vieil homme, aussi s'indignait-il de la faiblesse de ceux qui l'entouraient, et doué d'un esprit mordant, il les appelait des lâches. Il étouffait dans l'atmosphère de despotisme et de servilisme où il vivait. Il aimait la France, mais plus encore la liberté. Un jour, ce fier jeune homme dit à ses amis « Je ne puis courber ma tête sous le joug auquel vous vous soumettez volontairement. Adieu. Je pars, je vais à Strasbourg, et j'abandonne toute idée de revenir en France. » Strasbourg ne le satisfit point. Les hommes les plus éminents qui s'y trouvaient mettaient quelquefois, dans une bonne intention sans doute, la paix au-dessus de la vérité. Les jugements âpres du jeune Français déplaisaient à Bucer et à ses amis. Il était frondeur de sa nature et cassait toutes les vitres. Il eut une prise violente avec un Strasbourgeois dont Calvin parle sans le nommer et qui se trouvait être pour le moins aussi susceptible que le Parisien était emporté. La conversation roula sur le baptême, le jeune Français s'éleva contre la régénération baptismale et soudain son adversaire, que Calvin juge avec une grande modération, se mit à accuser le pauvre réfugié d'anabaptisme. C'était alors un terrible reproche. Partout où allait le Strasbourgeois, il répandait ses accusations, ses invectives. Tous les cœurs se fermèrent au jeune Français. On ne voulait pas même lui permettre la moindre explication. Il se trouva bientôt dans le besoin et réclama l'assistance d'amis qu'il avait lui-même auparavant secourus. Tout fut inutile. Réduit à la plus extrême nécessité, n'ayant ni de quoi manger, ni de quoi voyager, Le Parisien trouva pourtant le moyen de retourner en France au milieu de grandes privations. Il joignit Calvin à Noyon, où celui-ci se trouvait au commencement de septembre 1532. Le jeune homme, navré, aigri, lui fit de Strasbourg la plus triste peinture. Il n'y a pas eu une seule personne dans toute la ville dont j'ai pu obtenir un sou, lui dit-il. Mon ennemi n'a rien épargné, et faisant jaillir de tous côtés les étincelles de sa colère, il a ainsi allumé un grand feu. Mon séjour y a été une vraie tragédie, qui a eu pour catastrophe la ruine d'un innocent. Calvin le mit sur la question du baptême, et cet examen rigoureux fut tout à l'avantage du jeune réfugié. « Vraiment, dit le commentateur de la Clémence, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui professât sur ce point la vérité avec autant de franchise. » Calvin ne perdit pas un moment, et se mit, 4 septembre, à écrire à Bucer, qu'il appelle évêque de Strasbourg. « Hélas, lui dit-il, comme la calomnie est plus puissante que la vérité. On a ruiné la réputation de cet homme, peut-être sans intention, mais certainement sans raison. Si mes prières, si mes larmes ont quelque prix à vos yeux, ô maître Bucer, ayez pitié de la misère de cet infortuné. Vous êtes le patron des pauvres, l'aide des orphelins, ne permettez pas que ce malheureux soit réduit à la nécessité la plus extrême. » Peu après avoir écrit ce touchant plaidoyer, Calvin retourna à Paris. Quant au frondeur, nous ne savons ce qu'il devint. Au reste, ce jeune homme n'était pas le seul à attaquer et à se plaindre. Le mouvement littéraire de la capitale se prononçait toujours plus dans le sens biblique. Le Vénitien Guida Chierio, se consacrant aux études scripturaires, imprimait un commentaire sur le Cantique des Cantiques et une exposition du Sermon sur la montagne, au grand dépit des docteurs de la Sorbonne qui s'irritaient de voir des laïcs leur enlever le monopole de l'interprétation des Écritures. Des prêtres dans leurs sermons, les étudiants dans leurs thèses, mettaient en avant des propositions contraires à la doctrine romaine. Et Béda, hors de lui, remplissait Paris de ses déclamations furibondes. On lui fit bientôt une sanglante réponse. De jeunes amis des lettres représentèrent publiquement une comédie burlesque dont le titre était « L'université de Paris est fondée sur un monstre ». Béda ne se contint plus. « C'est de moi dont on parle » s'écria-t-il. Et il assembla les facultés. Elles déférèrent la chose aux inquisiteurs de la foi qui eurent l'esprit de la laisser passer. Calvin, de retour à Paris, ne se joignit pas à ce monde lettré qui se riait alors des attaques des prêtres. Il préféra un chemin étroit et plein d'épines. Chaque jour, il se rendait dans les assemblées qui se tenaient en secret dans divers quartiers de la capitale. Il fréquentait les familles pieuses, s'asseyait au foyer des amis de l'Évangile et discourait avec eux sur la vérité et les difficultés que la réforme rencontrait en France. Un pieux et généreux négociant, originaire de Tournai, nommé Étienne de la Forge, l'attirait surtout alors. Quand il entrait dans les magasins du marchand, il était souvent frappé du nombre des acheteurs et du mouvement qui l'entourait. « Je suis reconnaissant, lui disait de la Forge, de toutes les bénédictions que Dieu m'a accordées. Aussi, je ne veux épargner mes biens ni pour secourir les indigents, ni pour propager l'Évangile. » En effet, le négociant faisait imprimer à ses dépens les saintes Écritures et il en mêlait les exemplaires aux nombreuses aumônes qu'il faisait. Noble, bienveillant, prêt à partager avec les pauvres tout ce qu'il possédait, il avait aussi un esprit qui savait discerner l'erreur. Il était bon, mais il n'était pas faible. Certains docteurs, philosophes incrédules et immoraux, commençaient alors à se montrer à Paris et se présentaient chez Delaforge, où Calvin les rencontrait. Celui-ci s'enquérant auprès de son ami quels étaient ces personnages à mine un peu étrange, « Ils prétendent avoir été chassés de leur patrie, » répondait Laforge. « Peut-être. Mais alors, croyez-moi, c'est pour leurs méfaits et non pour la parole de Dieu. » C'étaient les chefs des sectaires, plus connus plus tard sous le nom de libertins, qui arrivaient alors des Flandres. De la Forge ne donnait pas seulement ses biens. Il sut plus tard se donner lui-même et mourir pour confesser Jésus-Christ. Aussi Calvin, à Genève, se rappelant les 12 conversations qu'il avait eues avec lui, s'écriait avec un sentiment de respect « Ô saint martyr de Jésus-Christ, ton souvenir sera toujours sacré parmi les fidèles. » Outre de la Forge, Calvin avait à Paris un autre ami intime dont le caractère personnel avait pour lui un grand attrait, quoique la tendance de son esprit fût tout autre que la sienne. Louis du Tillet était un de ces chrétiens doux, modérés, mais qui craignaient la croix et que le respect humain paralyse. Le frondeur et lui étaient aux extrêmes. Calvin était au milieu. En réformant l'Église catholique, du Tillet voulait pourtant la maintenir et vénérer son unité. Le réformateur avait été frappé de sa charité, de son humilité, de son amour de la vérité, et Louis, de son côté, admirant les grands dons et grâces que le Seigneur avait élargis à son ami, ne pouvait se lasser de l'entendre. Il appartenait à une famille noble d'Angoulême. Son père était vice-président de la Chambre des comptes, son frère aîné valet de chambre du roi, son frère second greffier en chef du Parlement. Il était sans cesse ballotté entre Calvin et ses parents, entre l'écriture et les traditions, entre Dieu et le monde. Souvent il quittait Calvin pour se rendre à la messe, mais bientôt, attiré par un charme dont il ne pouvait se rendre compte, il revenait à son ami, dont les idées lumineuses répandaient quelque clarté dans son esprit. Du Tillet s'écriait « Oui, je sens bien qu'il y a en moi beaucoup d'ignorance et de ténèbres. » Mais l'idée d'abandonner l'Église l'épouvantait, et à peine avait-il ainsi parlé qu'il courait aux offices. Calvin, grâce aux nombreux amis qui le voyaient de près, commençait à être apprécié même de ceux qui calomniaient sa foi. « Oh, disait-il, celui-ci a du moins une vie rigide, il ne serre pas son ventre. Dès son adolescence, il a repoussé les plaisirs de la chair. Il ne mange ni ne boit. Voyez-le, son esprit est vigoureux. Son âme unit à la sagesse l'audace. Mais son corps est maigre et fluet. On s'aperçoit bien que ses jours et ses nuits sont consacrés à l'abstinence et à l'étude. Ne pensez pas que je jeûne à cause de vos superstitions, disait Calvin. Non. C'est uniquement parce que l'abstinence dissipe les maux qui m'arrêtent dans mon travail. Le professeur Nicolas Cop, fils de ce Guillaume Cop, médecin du roi, dont la France et l'Allemagne, disait Erasme, se disputaient la gloire, avait reconnu dans Calvin une vie intérieure, une foi énergique qui le captivait, et il ne le rencontrait pas dans les environs de l'université sans l'aborder. On les voyait se promener longtemps de long en large, absorbés dans leur conversation. Les prêtres les regardaient avec défiance. Ces colloques les inquiétaient. Cop se laissera gâter l'esprit, disait-on. On cherchait à le prévenir contre son ami, mais leur intimité devenait toujours plus grande. La réputation de Calvin, qui commençait à s'étendre, vint jusqu'à la reine de Navarre. Et cette princesse, qui aimait fort les beaux génies et qu'une conversation agréable ravissait, voulut voir le jeune littérateur chrétien. Il y eut ainsi de bonne heure des rapports entre eux. Le chrétien et savant écolier prit la défense de la sœur de François Ier dans une lettre écrite à Daniel en 1533, et cette princesse lui communiqua plus tard le mariage projeté pour sa fille Jeanne d'Albret, ce qui indique des relations assez intimes. Pendant le temps où la piété de la reine de Navarre fut la plus pure, un respect et une grande affection réciproque unirent ces deux nobles caractères. « Je vous conjure, disait Marguerite à Calvin, de ne pas m'épargner en toute chose dans laquelle vous croirez que je peux vous rendre quelque bon service. Soyez sûr que j'agirai de tout mon cœur selon le pouvoir que Dieu m'a octroyé. » On n'entre pas dans le ministère de Dieu, dit Calvin, sans avoir été éprouvé par la tentation et comme fait son chef-d'œuvre. L'esprit de la reine, la cour de Saint-Germain, tant de belles intelligences, de nobles personnages, la perspective d'exercer une influence qui tournerait à la gloire de Dieu, toutes ces choses pouvaient le tenter. Deviendra-t-il peut-être, comme Roussel, le chapelain de Marguerite? Quittera-t-il la voie étroite où il se trouve pour entrer dans celle où les chrétiens semblent marcher, en ayant le monde à leur droite et Rome à leur gauche? L'amour de la reine pour le Sauveur toucha Calvin, et il se demanda si ce n'était pas une porte ouverte de Dieu par laquelle l'Évangile devait entrer dans le royaume de France. Il se trouvait en ce moment sur le bord de l'abîme. Quelle apparence qu'un jeune homme, à l'entrée de sa carrière, ne saisirait pas avec joie l'occasion qui se présentait à lui de s'attacher à une princesse pleine de piété et d'esprit, à la sœur du roi. Marguerite, qui fit Roussel évêque, aurait bien un diocèse pour Calvin. « Je voudrais, lui disait-elle un jour, avoir un serviteur tel que vous. » Mais la piété un peu mystique de cette princesse et les vanités dont elle était entourée répugnaient à ce cœur simple et droit. « Madame, répondit-il, je ne suis pas propre à vous rendre grand service. La capacité n'y est pas, et aussi vous n'en avez pas faute. Ceux qui me connaissent savent bien que je n'ai jamais désiré avoir entré au cours des princes, et je remercie notre Seigneur que je n'en ai pas été tenté, car j'ai bien raison de me contenter du maître si bon qui m'a accepté et me retient en sa maison. » Calvin ne voulait pas plus des dignités mi-catholiques de la reine que des dignités romaines des papes. Il sut pourtant mettre à profit l'occasion qui lui était offerte et conjura noblement Marguerite de se prononcer plus franchement pour l'Évangile. Entraînée par une parole qui, quoique simple, avait une grande puissance, elle se déclara prête à marcher en avant. L'occasion allait se présenter de réaliser le projet qu'elle avait conçu de renouveler l'Église universelle sans rompre son unité. Mais les moyens qui devaient être employés n'étaient pas ceux qu'approuvait Calvin. On allait avoir recours au conseil et aux forteresses. Or, disait-il, le seul fondement du royaume de Jésus-Christ, c'est l'abaissement des hommes. Je sais combien les esprits charnels s'enorgueillissent de leurs vaines paroles. Mais les armures du Seigneur, par lesquelles nous combattons, seront plus fortes et l'emporteront sur toutes les forteresses, au moyen desquelles ils s'estiment invincibles. Nous allons retrouver Luther, et sur ce point important, Calvin et Luther seront d'accord.